Donc, j'avais sûrement peur, mais puis j'ai appris en faisant. Et puis, je découvre que cette boîte va peut-être entrer en bourse. Je comprends pas ce que c'est, mais je trouve ça extraordinaire. Je découvre, tu vois, je forge ma connaissance et de l'écosystème Internet et de ce qu'est de ce qu'est un grand site web de l'époque. Ça faisait partie du top 10 des sites français. Et puis, de ce que c'est qu'être entrepreneur, parce que j'en vois quand même là deux. Donc, Marc Simoncini, dont tu as parlé, et puis mon associé à l'époque, qui est Thierry de Passemar, qui est devenu mon mentor. Et donc, je vois, je les vois faire et je me dis, tiens, pareil, pourquoi pas moi? Je trouve que c'est sympa ce qu'ils font. Ils ont des idées, ils évaluent les risques, les coûts, ils voient avec qui ils peuvent le faire et après, ils mettent en œuvre. Et formidable, c'est ça, j'étais faite pour ça.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui cette interview d'une femme que j'admire. Cela fait un an que je tente de la voir derrière mon micro et nous y voici. Je dois avouer que cette interview a été un petit challenge pour moi, car nous n'avions qu'une heure. Vous ne m'en voudrez pas, pour cette introduction, je parle un petit peu du nez. Les pollens ne sont pas meilleurs amis en ce moment. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée. Et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts sera un vrai plus. Allez, je referme la parenthèse. Catherine vient d'un milieu modeste et était une élève brillante. Son mémoire de fin d'études de l'ESSEC a été un virage incroyable dans sa carrière. Elle intègre alors l'agence OMD et se fait débaucher par Marc Simoncini pour devenir directrice générale d'e-France. Suite à la vente de l'entreprise, elle se dit qu'elle a envie d'entreprendre à son tour. Depuis, Catherine aura monté plusieurs sociétés et écrit des livres. Elle est partie vivre 5 ans à New York. Elle revient aujourd'hui en France avec un magnifique projet. Je ne vous en dis pas plus sur la mamie du web, comme on la surnomme. Bienvenue dans l'univers de Catherine Barba.
Bonjour Catherine.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Ah oui, alors je te l'ai apporté là. C'est une petite carte que je garde toujours avec moi.
Ouais.
Je suis désolée, je vais vous imposer toutes mes bondieuseries. Hein. Ça, c'est... Mais ça fait partie de ma vie. Donc, c'est une petite prière de Sainte Thérèse d'Avila qui dit la chose suivante, que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Déjà, c'est pas mal comme message. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu, rien ne lui manque, Dieu seul suffit. Et c'est une sainte hyper moderne qui m'accompagne depuis longtemps. Et il y a dans ces petites phrases des choses qui m'habitent et qui me donnent beaucoup de force et qui m'aident à traverser toutes les épreuves avec un détachement que tu n'imagines même pas. Parce que tout passe. Voilà, ça, c'est un truc qui est très ancré en moi.
Et bon, alors on va faire un petit peu différente d'habitude parce que d'habitude bon les interviews durent entre 1h30 1h40 mais là on a 1 heure. Est-ce que
c'est énorme, je sais que
c'est déjà énorme, oui. Quelque chose qui est très important pour toi, en effet, c'est tout ce qui est spiritualité, le fait que tu sois chrétienne. Et tu disais dans une interview dans le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, que c'était un peu ton ancrage, et parce que t'as un parcours absolument exceptionnel. Mais à côté de ça, tu es maman, femme d'entrepreneur, tu es entrepreneuse. Et tu disais du coup que c'est quelque chose qui te permet, en effet, de t'ancrer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, c'est étonnant de parler de sa foi, hein, mais c'est quelque chose qui est ma source de joie. Donc, j'ai envie d'en parler et de confiance.
Ouais.
C'est ce qui empêche mon cœur de sécher.
C'est ce qui
me permet de garder toujours beaucoup de recul par rapport à ce que je traverse, par rapport au succès, par rapport aux échecs. Et puis, c'est une personne, tu sais. Pour moi, ma foi, c'est une relation avec quelqu'un qui est plus grand que moi. Et donc, ça a toujours été dans ma vie.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ça, depuis toute petite, c'est le cas.
Bah oui, au début, j'ai eu une éducation catholique, un peu classique. Je le faisais un peu culturellement. Tu sais, au début, tu suis le mouvement. Hein. Si j'avais eu des parents d'une autre confession, j'aurais eu la leur. Et puis, jusqu'au moment où il se passe quelque chose, il y a une sorte de rencontre et tu te dis, je ne suis pas toute seule. Quoi. Je ne suis pas toute seule pour traverser tout ça. Et ça donne du sens. Moi, ça me donne surtout de la joie et de l'énergie. Je peux pas te dire. Donc, je passe du temps tous les jours. J'ai plein de petits rituels de bondieuserie. Je lis beaucoup de. Je reçois des newsletters tous les matins. Je commence ma journée comme ça. Je sais pas comment toi ou les gens qui nous écoutent commencent leur journée. Moi, comme tout le monde, j'allume mon téléphone, c'est horrible. Sauf que c'est pour me connecter à quelque chose d'autre. Donc,
c'est ton miracle morning à toi.
Exactement, c'est mieux que les nouvelles du jour.
Ah oui, ça, on est d'accord. Et quand tu dis que ça a été une rencontre, c'est un moment particulier dans ta vie?
Ouais, je pense. Je suis passée pour une illuminée, mais...
Non, je vais te dire, écoute, j'ai interviewé la fondatrice de Loose Collection, qui est une femme exceptionnelle et qui nous a raconté l'expérience mystique qu'elle a vécue en Argentine. Donc, t'inquiète pas.
D'accord, donc ça va,
je ne suis pas un ovni sur le T'inquiète sujet. Pas, il n'y a aucun souci.
Non, c'est cette espèce de... Quand tu es dans le silence de ton cœur dans ta chambre un soir et puis t'as une espèce de chaleur immense et la certitude d'être infiniment aimé, d'être connu par ton nom et que c'est invisible évidemment, mais c'est une force inouïe. Donc c'est ça s'est passé comme ça. J'ai une sorte de pluie de chaleur et qui m'a jamais quittée depuis.
T'avais quel âge?
Je pense que j'étais en cinquième ou quatrième.
D'accord. Ah, c'est très fort. Et justement, en parlant de la petite Catherine, où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu es née?
J'ai grandi dans l'Ouest parisien, à Rueil-Malmaison, dans le 92. Je suis fille unique.
D'accord.
Et j'étais donc, j'ai fait toute ma scolarité à Danielou. Chouette école, que j'ai gardé des bonnes copines pour la vie.
Et tu étais quel type de petite fille?
J'étais hyper studieuse, j'étais une polarde, j'adorais travailler, j'adorais être première de ma classe. J'aimais que mes parents soient fiers de moi, parce que je viens d'un milieu très modeste et pour nous, l'élévation, le fait de se sentir plus libre et de s'offrir des choses, ça passait par l'école, il n'y avait pas d'autre moyen. Donc, je mettais un point d'honneur à être la meilleure. Puis j'aimais bien ça, j'aime bien apprendre, ça je l'ai gardé, hein, toi aussi j'imagine, c'est un truc
à vie, ouais.
Je ne perds jamais. Donc voilà, j'étais une petite élève studieuse. Après, alors là, attends, les copines te diraient qu'à un moment, il y a une petite vrille qui s'est opérée, où j'avais un look complètement improbable, alors que toutes les filles de mon école étaient toutes très jolies.
Ouais, Danielou, c'est très classique.
Voilà, c'est ça, et moi j'étais un peu la rockstar de l'école.
La Punky Brewster de l'époque.
Alors, j'avais des crêpeurs, j'avais des Doc Martens, j'avais les cheveux courts. Je me coupais les cheveux moi-même, donc je me crayonnais du noir pour pas qu'on voit qu'il y avait des trous. Enfin, vraiment, c'était un bonheur, quoi. Je suis hyper reconnaissante à mes parents de m'avoir laissée dans ce délire. C'était absolument inesthétique à souhait. Je revois les photos, j'ai juste honte. Oh, les photos de classe, mon Dieu, quoi. Mais bon. C'était, et je me construisais comme ça, dans la différence. J'avais envie de l'afficher. Mais j'étais toujours hyper studieuse. J'adorais étudier.
Sachant que tu étais, enfin, Danielou, c'est une institution catholique dans l'Ouest parisien, donc avec des gens quand même qui ont des certains moyens. Toi, du coup, tu disais que tu viens d'un milieu simple. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier?
Ils étaient employés dans des grandes entreprises, dans le pétrole, tu vois. Donc, effectivement, il y avait un décalage entre les copines qui avaient des maisons, qui allaient avec leur grand-mère à l'opéra. Moi, ça me faisait rêver, quoi. Les copines qui rentraient le lundi, qui disaient le samedi, je suis allée à l'opéra avec ma grand-mère. Mais moi, je me disais, mais ma grand-mère, la pauvre, elle ne sait même pas ce que c'est l'opéra. Elle n'en a jamais entendu parler. Et je me disais, c'est chouette, ça. Ça me faisait envie. Tu vois, j'avais pas.
Ouais, comment tu le vivais?
Mais ça me, ça me faisait rêver, en fait.
Et c'était quoi tes rêves d'enfant? Tu disais, oh, quand je serai grande, quand tu avais 6 ans, tu disais, quand je serai grande, j'aimerais.
J'aimerais avoir accès à cette culture, j'aimerais avoir une belle maison, j'aimerais... J'avais vraiment envie de vivre comme mes petites camarades. Voilà. Et puis, j'ai retrouvé un devoir où je disais que je voulais créer une société d'informatique quand j'étais
enfant. C'est vrai ? C'est fou, hein ?
Non, mais tu verras, je te l'enverrai, c'est dingue. C'est mon père qui a retrouvé ça en exhumant, je ne sais pas, tous mes vieux papiers dans sa cave. Et c'était un devoir de CM2, donc en 83. Donc,
je suis l'année de ma naissance.
Ouais, tu vois, ben, moi, on a 10 ans d'écart. Et donc, j'écrivais que je voulais, parce que je trouvais que ça hyper intéressant, l'informatique. Que ça avait l'air d'être un truc d'avenir et que être son propre patron, ça devait apporter beaucoup de satisfaction et puis aussi beaucoup d'argent. Mais c'était mignon.
Ah, après,
j'avais
génial,
pas envie, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, mes rêves, c'était de m'élever socialement. Je trouvais ça tellement beau. Les gens qui avaient des belles maisons, ça me. Encore une fois, je les enviais pas au sens jalousie, mais je rêvais d'être à. De m'offrir ça un jour. Et ça a été mon moteur, en fait. Ça a été mon moteur longtemps.
Parce que du coup, tu étais une très, très bonne élève. Tu as même eu le prix du concours général en français quand tu avais 16 ans.
Ouais.
Ce qui est, ouais, c'est vraiment que les très, très bons élèves à qui on propose de passer le concours général. Et alors, ceux qui gagnent, en plus, comment tu l'as vécu?
On était deux dans la classe, dans l'école à le passer. Il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet qui était dans
D'accord.
ma classe. Moi j'avais, tu sais, il y a aussi dans ma classe, il y avait aussi Delphine Damarzit qui est devenue la première patronne d'Euronext récemment. Donc il y avait vraiment des tronches, des filles avec qui ont eu des parcours extraordinaires. Mais sur le français, c'était vraiment ma matière forte. Et je me rappelle, c'était un texte de Jean Genet qui était en ouverture de la pièce de théâtre Les Bonnes. Et ça disait, je vais au théâtre pour me voir sur la scène telle que je ne saurais me voir ou me rêver, telle pourtant que je me sais être. Et ça m'avait vachement inspirée.
Ouais, c'est génial. Et au moment du coup de choisir ce que tu allais faire, comment ça s'est passé au lycée?
Alors, j'avais aucune idée, mais tu sais, aucune idée de la suite. C'est ça un peu le problème de l'école, c'est que c'est complètement décorrélé de la vie, enfin de la suite. Et il y a des présentations pour les terminales, tu sais, comme il y a tous les ans. Et j'ai eu pareil, j'ai eu une évidence, un choc, une révélation. C'était, il fallait que je fasse une hypocagne.
Okay.
Il y a eu la présentation de ce qu'était l'hypocagne. Je me suis dit, j'avais aucune idée de là où mes parents me disaient, mais à quoi ça mène? Enfin, je veux dire, que font les gens qui font une hypocagne? Ben, ils font normal sup et puis après, ils font quoi? Ben, je sais pas, mais ça me paraissait dingue. Et donc, c'est ce que j'ai fait.
Okay.
J'ai fait une année d'hypocagne, deux années de gagne. J'ai raté Normal Sup.
D'accord.
Parce que je n'ai pas assez travaillé. Je faisais du théâtre en parallèle. Moi, j'étais nulle en théâtre. Heureux. Mais personne ne me l'a dit. J'ai quand même des amis un peu focus parce qu'ils me disent tout ce qui ne va pas, mais après. Tu vois.
Ouais, je vois. Ouais, je ne t'ai pas dit, mais en fait, ça, c'est vraiment, tu n'étais pas bonne. Bah, merci.
Bah, voilà. Bah, merci, les gars. Vous auriez pu me dire. Tu vois. Non, si sur la conduite, ça, tout le monde me l'a dit tout de suite. Tu
ouais.
Je ne le fais plus. Ça, c'est sympa. Sauver des vies quand même. Mais donc voilà, j'ai fait ça et j'ai adoré. C'était très difficile. Mais pour une staccanovice du travail comme moi, c'était du bonheur, tu vois. Mais quand j'y pense, ma fille me dit, mais non, mais jamais ma vie, je ferai une prépa. En tout cas, pas une hypocagne. Donc.
Ouais, c'est très, très costaud.
C'est très costaud. J'ai rencontré mes amis pour la vie aussi. Voilà, j'ai rencontré. La marraine de ma fille, une autre amie dont je suis la marraine, une troisième, enfin, donc ça reste
ça crée des vraies relations solides
extraordinaires pour la vie, dans l'adversité, tu sais, quand tu traverses des choses difficiles avec des gens, forcément tu as une tendresse particulière pour eux. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, et comme j'avais raté Normal et j'avais l'impression que ma vie était finie, tu vois, on parle des échecs,
premier
échec. Ma propre mère m'a fait la tête pendant une semaine, mais c'est normal en même temps. Elle savait que j'avais pas assez travaillé, que j'aurais pu l'avoir, mais donc elle m'en voulait. Mais je la comprends aujourd'hui. Mais sur le moment, j'étais effondrée. Et on m'a dit, ah, tu vois, comme tu es admissible, tu es aussi admissible à l'ESSEC et à l'ESCP, c'est quoi? Je sais des écoles de commerce, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il dit, passe-les, tu verras, c'est bien. Et on m'a dit, à l'ESSEC, c'est où? Ah, c'est en dehors du périph. Non, ben non, j'ai pas envie. Je vais passer un truc à Paris. J'étais complètement stupide. Et voilà, donc j'ai passé l'ESCP. C'est comme ça que j'étais admise en école de commerce. Et finalement, c'était tellement plus adapté à moi, au fond.
Oui, ça paraît, aujourd'hui, ça paraît plus logique. Mais
oui, bon. J'aurais fait quoi? J'aurais été prof de philo. Bon, j'ai épousé un agrégé de philo. Donc finalement, tu reboucles. Mais il est devenu à son tour entrepreneur. Enfin, tout est dans tout. Mais je ne savais pas trop ça me menait, mais j'avais l'enseignement, l'exigence intellectuelle, la capacité de boulot, l'ouverture. Tout ça m'accompagne encore aujourd'hui. Ouais, c'est là que j'ai découvert Giacometti, c'est là que j'ai découvert les portraitistes anglais du 19e siècle, que j'ai découvert mes auteurs préférés. Enfin, c'était dingue.
Et donc là, quand tu as été pris à l'ESCP, tes parents, comment ils l'ont vécu?
Oh, je pense qu'ils étaient soulagés, oui, oui. Ouais. On dit, ah, quand même, du travail qui va vers des vrais métiers. Ils sont très pragmatiques, mes parents.
Ouais, c'était plus concret.
Bah oui, et c'était 3 années qui restent assez floues, je dois te dire. C'était une espèce de flou. On faisait beaucoup de soirées, donc je me rappelle.
Oui, c'est un peu le concept. Tu souffres pendant la prépa et puis après, c'est la fête. Ouais.
Mais ce que j'ai appris récemment, c'est que mon mémoire de fin d'études a été le premier de toute l'histoire de l'école qui parlait d'Internet.
Justement, il y a une vraie histoire. Ouais, il y a une vraie histoire, justement. Je voulais qu'on en parle concernant ton mémoire de fin d'études. Parce que tu avais hésité entre plusieurs sujets, mais qu'en fait, finalement, ce mémoire de fin d'études, il a quand même changé. On peut dire qu'il a changé ta vie.
Oui, mais tu sais,
nous raconter?
Moi, je suis vraiment quelqu'un, peut-être toi aussi, mais profondément ancré dans le présent. C'est-à-dire que pour moi, le passé, c'est fini, ça n'existe pas. J'essaie d'en tirer le bon, mais j'ai pas mon sac à dos de passé. Et puis, le futur n'existe pas non plus. Enfin, j'ai un problème, hein, j'ai du mal à anticiper. Il faut que je m'y mette, hein, d'ailleurs, maintenant. Du coup, j'arrivais à la fin de l'école et je n'avais aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire. Là où j'allais travailler, enfin, on était au mois de mars, avril, et je n'avais aucune idée. Et donc, je te dis, comme tu dis, j'hésitais à faire un mémoire sur, je sais pas, les paradis fiscaux, le business de la planche à voile. Ouais. Et c'est comme ça. Et par hasard, j'ai découvert un concours dans un magazine qui parlait de ce sujet, Internet. Et je me suis dit, oh, trop bien. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a intéressée. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Je suis allée rencontrer la poignée de gens qui y avaient travaillé sur Internet. Et j'ai pondu un truc de mémoire, et ce qui était aussi ce devoir, ce concours. Et j'ai gagné le premier prix. Et c'est ça qui a changé ma vie, très clairement. Ça a changé ma vie. Mais c'est comme toi, comme tous les gens qui nous écoutent, ce sont les rencontres qui changent nos vies. C'est ça qui est extraordinaire. Et les meilleures, je dois vous dire, elles sont encore à venir. La bonne nouvelle.
Et donc là, du coup, donc tu gagnes ce concours, t'en profites donc pour faire ton mémoire, donc le premier de l'histoire de l'ESCP sur Internet. Ouais,
Oui, parce que on m'a redit récemment, je suis retournée à l'école pour parler aux étudiants, et un prof m'a redit le nom de mon responsable de mémoire, donc j'avais complètement oublié, mais ça y est, je me souviens de lui, et il l'a gardé, donc je vais le
super. Ah ouais, génial. Ouais, c'est une pépite, ça. Et donc là, du coup, donc tu te fais engager par l'agence OMD pour créer l'entité interactive.
Mais oui, parce que la présidente du jury de ce concours, elle dirige une entreprise qui est une agence média, qui achète de l'espace télé, presse, affichage, radio, et qui me dit, ben moi, nous, Internet, on ne comprend rien, c'est tout nouveau, on est en 96, donc c'est normal, c'est tout neuf. Et elle me dit, mais si ça vous dit, venez, vous avez l'air débrouillarde, venez vous occuper de notre département OMD interactive. Je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve cette femme formidable. Ça aussi, c'est une autre belle rencontre. Viviane Pratt, tu vois, on a des bonnes fées sur sa route. Moi, c'était ma fée Viviane. Et j'ai dit, OK, je reviens. Je ne comprenais absolument rien à ce que faisait cette entreprise. D'ailleurs, le monde de l'entreprise m'était assez étranger. Et je ne m'étais jamais projetée. J'avais fait des stages, ce qui était des sketchs. Enfin, c'était plutôt des occasions d'aller aux États-Unis ou d'aller travailler dans des marques que j'aimais bien. Mais la vie d'entreprise, ça ne me plaisait pas du tout. Mais là, je me suis dit, OK, cette femme me plaît. Et puis surtout, l'idée de développer quelque chose de nouveau. J'aime bien ça. vois, quand ça n'existe pas, on ne sait pas, mais on va l'inventer en le faisant. Et c'est devenu un réflexe et c'est génial parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit tous faire finalement. On est amené à faire, à poser des actes, à prendre des décisions. On ne sait pas puisqu'on est dans l'incertitude. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien quand on ne sait pas et qu'on découvre en le faisant.
Créer de rien et emmener loin. Et quand tu dis que la vie de l'entreprise ne te plaisait pas dans tes stages, qu'est-ce qui ne te plaisait pas ?
Je trouvais ça incroyablement formel, processé. Tu vois, quand j'avais fait un stage chez Guerlain, parce que j'aimais bien cette marque, en fait, et j'avais découvert, en fait, les stagiaires, il y avait une cantine et il y avait l'espace pour les cadres, l'espace pour les non-cadres, enfin, c'était des castes, en fait. Et donc, moi, comme j'avais l'intention plutôt d'aller vers le haut, je prenais mon plateau et j'allais dans l'espace de la direction. On m'a dit, non, vous allez là-bas. Et je me suis dit, c'est dingue, ça. Enfin, tu vois, il y avait des aberrations. C'est pas très grave en soi, hein, mais ça me gênait. Et la façon,
c'est surprenant.
Le lien qu'il y avait, la subordination, le côté obéissance, ça me parlait moyen.
Et à ce moment-là, tu t'étais imaginée entrepreneuse ?
Non, pas du tout. Je me disais que j'étais totalement inadaptée au monde, tu vois. Je me disais, je ne sais pas. Mais je ne me pose pas de questions. Enfin, fondamentalement, c'est quelqu'un qui se pose assez peu de questions. Puisque comme je te dis, je suis au présent, je vis ce qui se passe, j'essaye d'apprendre, j'essaye de trouver des solutions. Mais donc, j'ai assez peu d'angoisse, en fait, je peux dire.
Ouais, ça aide à avancer, du coup, quand
c'est assez de chance. Je pense qu'il y a des connexions dans mon cerveau qui se font, qui ne se font pas, tout simplement. Ouais. Merci, le cerveau. Et donc, je ressens assez rarement d'inquiétude. Hein. Ma fille te dirait, ma mère se fout de tout. Pas vrai, hein. Mais c'est vrai que je ne m'inquiète pas parce que je me dis, il y a ce sur quoi j'ai prise et ce sur quoi je n'ai pas prise. Ce sur quoi j'ai prise, ben, je vais résoudre l'angoisse par l'action. Donc, ouais. Je vais entreprendre, je vais faire. Et ce sur quoi je n'ai pas prise, hop. Tout passe, tu
vois.
La
petite carte.
Ça passe. Donc, au final, et puis on n'est pas tout seul. Donc j'ai pas de, je ne savais pas trop. Ouais. Même quand je ne sais pas, ce n'est pas une source d'inquiétude.
Ouais. Donc là, tu restes 3 ans et il y a un déjeuner. Tu vas chez un prospect qui s'appelle e-France, donc qui a été créé par Marc Simoncini, qu'on connaît tous, qui suite à un déjeuner, on te propose un job, pas un simple job.
En fait, c'est pas un prospect, c'est un client.
C'est un client. D'accord.
Moi, je faisais de l'achat d'espace, j'achetais de la pub sur des sites. Et j'avais acheté une campagne de publicité pour Sony sur le site e-France. Et donc, pour me remercier, les fondateurs et les patrons de cette boîte m'invitent à déjeuner. Et puis, on a un bon échange. Et à la fin, ils disent, on cherche un directeur général. Ça vous intéresse ? Je dis, OK. Et donc, je rentre du déjeuner et je dis à Viviane, je vais partir. En fait, j'ai rencontré ma future société. Ne pas y aller, c'est mon histoire, je crois. Et elle me dit, mais qui sont ces gens ? Je veux les voir, je veux savoir s'ils sont sérieux. Mais tu veux quoi ? Tu veux créer une entreprise ? Mais fais-le, nous, on va te financer. Enfin, en fait, je dis non, je ne sais pas. Et bon, ils sont bien entendus. Elle me dit, c'est bon, tu peux y aller. On va être gentil avec toi. C'est tellement mignon.
Ah, c'est et, fort, c'est...
Mais tu sais, ça me fait penser à une chose, et ça aussi, ça oriente ce que je fais aujourd'hui avec les plus jeunes ou les autres, les gens que je croise d'ailleurs, c'est comment est-ce que tu arrives à être un passeur de confiance pour les gens. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont transmis de la confiance en moi simplement parce qu'ils m'ont regardé en me regardant capable de faire des choses et que moi-même, j'ignorais totalement que j'en étais capable. Mais le simple fait que des gens que tu admires te regarde avec confiance, tu finis par te hisser à la hauteur du regard qu'on a posé sur toi. Et donc, tu deviens capable de faire, tu vois. Et ça, on a tous l'opportunité de croiser des gens comme ça. Et quand on sent que c'est peut-être ça, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas les rater parce que c'est ça, notre rempart. Tu vois, c'est un énorme rempart face à l'incertitude, la peur de mal faire. Non, c'est des gens qui te regardent avec cette bienveillance-là. Un peu de folie aussi, hein, parce que moi, je me disais, ils sont fous de me croire capable. Je ne sais pas faire, mais en même temps, je vais quand même essayer. Je vais tout donner.
Justement, quand ils t'ont dit, on te propose un poste de directeur général, enfin de directrice générale, comment tu le vis ? T'es comment intérieurement ?
je me dis, c'est fou, c'est fou ce truc. Mais encore une fois, je me dis, je ne sais pas faire, mais je vais faire. Moi, c'est ce qui me stimule, en fait. Tu vois, ouais. Je me dis, ils sont là, ils me font confiance, ils ont l'air d'être très solides, ils vont m'épauler. Voilà, je vais toujours, puis il y a des gens qui pourront m'aider. Je ne suis pas toute seule, en fait, on n'est jamais seule pour faire. Quand on parle beaucoup des femmes qui attendent d'avoir 200% d'une expertise pour pouvoir accepter un poste, alors là, moi, je suis très masculine dans le truc. Là, je pense que j'avais 20%, mais j'ai dit go, go, go.
Ouais. T'as pas eu peur ?
Sûrement. Sûrement, je devais être morte de trouille. Mais encore une fois, la peur se dissout dans l'action, en fait. J'ai commencé à énormément étudier, à devenir experte du sujet. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils hébergeaient des pages perso. C'est quoi les pages perso ? C'est quoi un rôle d'hébergeur ? Ouais, donc, la connaissance, le fait de connaître te permet d'avoir moins peur. C'est comme aujourd'hui, en fait. Tu sais, on n'arrête pas de t'expliquer que ben, il faut… Oh, le monde de demain sera très différent, certes. Mais il y a certainement des compétences qu'il faut que tu acquières pour être plus à l'aise. Et donc, il faut se mettre à les acquérir. Et je vais aider. Moi, je crois que je vais aider là-dessus. Je te raconterai ma nouvelle boîte après.
Ouais, avec grand plaisir.
Et donc, une fois que tu sais, le savoir, c'est quand même un socle solide. Carrément. Donc, j'avais sûrement peur, mais puis j'ai appris en faisant. Et puis, je découvre que cette boîte va peut-être entrer en bourse. Je comprends pas ce que c'est, mais je trouve ça extraordinaire. Je découvre, tu vois, je forme ma connaissance et de l'écosystème Internet et de ce qu'est, de ce qu'est un grand site web de l'époque. Ça faisait partie du top 10 des sites français. Et puis, de ce que c'est qu'être entrepreneur, parce que j'en vois quand même là deux, donc Marc Simoncini dont tu as parlé, et puis mon associé à l'époque qui est Thierry de Passemar, qui est devenu mon mentor. Et donc, je les vois faire et je me dis, tiens, pareil, pourquoi pas moi ? Je trouve que c'est sympa ce qu'ils font. Ils ont des idées, ils évaluent les risques, les coûts, ils voient avec qui ils peuvent le faire et après, ils mettent en œuvre. Et, formidable, c'est ça, j'étais faite pour ça. Je pense qu'à ce moment-là, le devoir de... Le CM2 est revenu à la
France. Et donc, du coup, e-France a été vendue. Tu es reparti avec un beau chèque. Comme tu dis, tu as gagné, t'as un peu gagné au loto.
J'étais pour rien en plus. Hein.
Comment ?
J'étais pour rien là, pour la vente. J'étais au bon endroit au bon moment, tu vois. Et je suis reconnaissante. Très.
Ouais. Ouais, surtout qu'à l'époque, c'était quand même, enfin, aujourd'hui, déjà, il y a quand même pas, enfin, il y a de plus en plus, en tout cas, en France, d'entrepreneurs qui donnent du capital ou des BSCPE à leurs salariés. Mais à cette époque-là, j'imagine que c'était quand même pas chose courante.
Sûrement, sûrement. Et c'est vrai que ça, du coup, ça a changé ma vie. Ça m'a forcément, hein, tu changes de perspective et surtout, ça m'a rendu plus libre à tout point de vue. Parce que c'est là que je me suis vraiment dit, tu vois, c'est vraiment une question que je me suis souvent posée. Si j'avais pas eu cette histoire-là, est-ce que j'aurais osé un jour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale? On était dans le début des années 2000, alors qu'il y avait aucune femme ou presque qui entreprenait. Il y avait Oriane Garcia à l'époque qui avait lancé Caramel, qui est une amie chère depuis, mais il y en avait pas. Donc, est-ce que j'aurais osé? Je sais pas. On ne refait pas l'histoire, hein. Mais en tout
non,
cas, ça m'a vraiment donné l'assise. Je me suis dit, OK, je vais créer ma boîte, je vais faire comme Marc et Thierry. Et si ça foire, c'est pas grave, je retrouverai un emploi salarié. Et puis deux, j'ai un peu de sous pour voir venir.
Et donc là, tu te lances donc dans la création de Cashtor, sachant que ton mari crée son entreprise aussi en même temps et que tu viens d'avoir un bébé.
C'est ça, ne jamais faire. Ne jamais, jamais, jamais faire ça. Enfin, ou alors, je ne sais pas, il y a forcément un truc qui va en pâtir, tu vois. Parce que une entreprise, ça t'occupe à 3000%. Si ton conjoint ou ton plus un fait pareil, il y a peu de moments d'interaction. Et là-dessus, tu as un bébé au centre. Ah non, mais le truc, les triplés, quoi, en fait. Voilà. Et ce qui a été difficile, et tout ça, cette configuration-là, tu l'as peut-être vu, hein, tu connais plein de choses sur moi, j'ai l'impression, Charlotte, tu sais, mais ça… qui a été difficile, moi, pendant plus de 15 ans, ça a été ma vie de couple. Elle a été extrêmement houleuse, extrêmement compliquée. Ouais. Tu vois, parce que forcément, tu pars pas très bien au début. Chacun crée sa boîte, il y a des tensions, tu es engagé à fond là-dessus. Et il faut arriver à reboucler avec ta vie de famille. Donc, mon mari m'avait demandé en mariage 3 jours après notre rencontre. J'avais dit oui.
Ah oui, non, ça, je ne savais pas. Je connaissais pas. Ah ouais, c'est… Bien. Ouais. Et vous êtes mariée, du coup. Et tu as dit oui?
Ah ben oui, c'est ça qui est fou. C'est le, parce qu'à la limite, qui me demande, je me dis, bon, il est un peu fou, certes, mais que je dise oui, c'est ça le plus dingue.
Ah ouais, c'est fou.
Que 20 ans après, ça soit, on soit encore là et on a traversé des trucs, je ne sais même pas. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille, le mariage. Hein. C'est loin non. de là. Et je comprends qu'il y en ait qui lâchent l'affaire parce que c'est exigeant. Et nous, on s'est accrochés, là, comme des. Et on a bien fait. On a bien fait. Donc ça a été difficile. Ça a été difficile. Et encore, on avait qu'un seul enfant. Je pense qu'avec deux, alors on aurait explosé en vol beaucoup plus tôt. Mais je connais bien les thérapeutes de couple. Je connais bien tout ça. C'est formidable.
tu pourrais écrire un bouquin ou faire un podcast là-dessus, quoi.
Oui, sur la thérapie de couple, ouais.
Ouais. Et votre fille, vous l'avez eue au bout de combien de temps après vous êtes rencontrés?
Ben en fait, on s'est rencontrés, on s'est mariés un an après, on l'a eue un an après.
Ouais.
N'importe quoi. Wow. Je pense que l'amour, c'est pas. J'ai découvert qu'on pensait qu'on était fait l'un pour l'autre. C'est pas vrai, en fait, on se fait l'un à l'autre. Voilà, c'est une espèce d'ajustement, de frottement, et puis qui est de plus en plus. Ça s'emboîte mieux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai. Et en fait, c'est le temps qui fait ça. Tu vois, c'est la patine du temps qui te donne ça.
Et quand du coup, tu as dit à ton mari, qu'est-ce qui avait initié son projet de création d'entreprise en premier? C'était lui ou c'était toi?
C'est moi, je crois. Il m'a copié. Et lui, il a cofondé Believe, qui est une des entreprises du Next 40. Sublime aventure. Surtout pour un philosophe, c'est pas mal.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
Il m'impressionne beaucoup, mon mari.
Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne chez lui?
Oh, bah, il m'apprend tout. Il m'apprend l'attention à l'autre. Il m'apprend à prendre soin. À prendre soin des autres. À prendre soin de nous. Tu vois, le soin, c'est un mot que je ne connaissais pas bien avant lui. Il m'apprend la patience. Il m'apprend la joie de faire à deux. Non, t'as jamais fini de connaître quelqu'un en fait. Et ce chemin qu'on fait ensemble, c'est le plus beau que je fais de ma vie. En fait. Tu vois, on parle du boulot, c'est formidable. Et c'est vrai que tu te construis dans ton travail, mais le boulot, ce n'est que du boulot.
Ouais. Quand t'es sur ton lit de mort, t'as peu de personnes qui parlent de leur boulot. Ils parlent plus de leur vie de famille, de leur entourage.
Mon business plan 2021, quand j'avais ma phase, non, on s'en fout.
Ouais.
Bon, après, il faut rester en vie, tu vois. Il y a quand même besoin d'avoir une activité qui te nourrisse intellectuellement, qui te rende utile,
ouais.
tant qu'il nous est imparti sur cette terre, et puis surtout qui te permette de vivre décemment. Donc, c'est important le travail, mais au fond, ce qui compte, c'est la relation, c'est les relations dans lesquelles tu t'investis. Donc, le soin, l'attention, ça, c'est ce que m'apprend mon mari.
Tu sais qu'on dit qu'en psychologie, les études de psychologie positive disent que l'autre est le miroir de soi et en fait tout ce qui nous impressionne, nous attire chez les autres, c'est ce qu'on a en nous-mêmes.
Ah bah dis donc, c'est chouette, j'ai un trésor alors. Mais le soin, j'ai du boulot encore, tu vois, j'aime faire attention aux gens, mais il m'apprend beaucoup.
C'est ce qu'on a en soi, mais en effet, parfois, il faut travailler un peu plus. Du coup, donc tu revends Cachetor. Comment ça s'est passé?
À ton concurrent. By Club, au bout de 6 ans. Parce qu'en même temps, j'avais deux entreprises, en fait. À un moment, j'avais Cachetor, mon site de cashback. Et puis, comme l'activité n'était pas flamboyante, j'avais inventé une autre activité pour continuer à avoir des revenus, donc une activité d'agence, d'accompagnement sur tout ce qui est e-commerce pour les e-commerçants pure player et après pour les marques, pour les enseignes. Ouais. Puis à un moment, il y a une espèce de conflit d'intérêts, tu as deux boîtes et qui grandissent les deux et donc effectivement, et puis une opportunité se présente de vendre Cachetor et puis après assez vite aussi de vendre Malinéa, la société, l'agence. Donc,
Et comment ça s'est passé du coup quand tu as revendu du coup Malinéa et Cachetor, tu te retrouves du jour à peu de temps de deux boîtes à plus de boîtes.
C'est ça, c'est dur. C'était pas mon histoire de faire ça. C'est chouette parce que j'ai appris beaucoup, mais je me retrouve donc chez VP puisque j'ai vendu la deuxième à VP et je suis engagée pour continuer à développer des choses avec eux, ce qui était sur le papier une idée absolument géniale. Parce que quand tu fais des flash sales, des ventes flash deux fois par an quand tu es une marque, bah, tu as 363 jours dans l'année où il faut que tu fasses autre chose, que tu développes ton e-commerce, ta relation client. Donc, on s'était dit, c'est génial et on va devoir, on va pouvoir être l'agence finalement de toutes les marques qui travaillent avec VP. Et puis après, on s'était dit, et s'il faut leur fabriquer un site e-commerce, on va pouvoir s'adosser sur tous les assets de l'entreprise, le service client, l'IT, le footing, la logistique. Donc, extraordinaire, c'était la délégation e-commerce. Et sur le papier, ça faisait un sens inouï, sauf que dans la pratique, c'était impossible à réaliser. Et pour des questions de taille, tu sais, quand tu es une entreprise qui gère de très, très gros volumes et que tu dois faire la même chose pour une toute petite boîte naissante, c'est compliqué. Et puis parce que moi, c'était pas mon histoire. Je me suis rendu compte alors que j'étais profondément entrepreneuse et que là où j'étais bien, c'était chez moi. Voilà. Et donc, ça, je leur suis reconnaissante parce que ça a été à nouveau une révélation, en tout cas une certitude. Il fallait que je retourne chez moi. Donc, on est parti aux États-Unis faire un grand voyage parce que j'étais quand même un peu au fond de la mine. Tu vois, là aussi, j'étais pas bien. Ça, c'était la fois dans mon histoire. Là, la première fois, c'est quand j'avais raté Normal Sup et là, je me sentais tellement mal. Tu sais, quand tu n'es pas alignée, en fait, enfin, toi, tu dis que tu as fait un burn-out, donc tu sais ce que c'est, mais moi, je n'étais pas alignée. J'allais au bureau le matin, j'avais envie de pleurer. D'ailleurs, je pense que je pleurais. J'y allais dans un taxi. Je pleurnichais avec mes chauffeurs de taxi. Je les ai marrés aussi parce que c'était l'humour, ça sauve pas mal. Hein.
On dit que les clowns sont les personnes les plus tristes au monde. Hein.
Ouais, là, j'étais super clown à cette époque alors. Ouais. Et puis, j'arrivais à la Plaine Saint-Denis et j'étais pas bien. Et tout le monde, ma fille me disait, ça va aller, maman. Ma mère me disait, elle m'appelait, ça va aller, chérie. Mon mari, je disais, mais qu'est-ce que vous avez tous à me dire que ça va aller? Je me rendais pas compte, j'étais vraiment pas bien. Et donc, mon mari, mon sauveur, cet astre, et il m'a dit, bien, on va partir 2 mois aux États-Unis, on va prendre l'air, on va aller voir les parcs, on va faire un voyage de famille, ça va être génial. Et ça, ça a été sûrement un déclencheur qui m'a donné envie, après, l'année suivante, de partir vivre 5 ans aux États-Unis, d'où je reviens aujourd'hui. Voilà, donc, c'est toujours un mal pour un bien, mais ça, tu le sais qu'après. Tu vois. Mais encore une fois,
La petite carte.
Ouais. Tout passe. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. C'est comme le confinement, mais tout passe.
Ouais. Oui, de toute façon, c'est des phases où on est dans le déni. Toi, est-ce qu'il y a ton corps qui te parlait d'une certaine façon? Donc, tu disais que tu pleurais tous les matins. Est-ce que tu avais d'autres signes physiques que tu avais, mais que tu ne voyais pas?
Je ne mangeais plus beaucoup. Quand j'ai des contrariétés, il y en a qui ont très, très faim. Moi, ça n'avait plus faim.
Ouais.
J'avais plus envie de cuisiner, je ne lavais plus les joues. Non, je rigole, j'en sais rien. J'étais juste pas bien, j'étais profondément triste. Et c'est vrai que la décision à un moment de dire on part aux États-Unis et peut-être qu'au retour tu reviens pas dans cette entreprise, je me suis sentie plus légère. Tu sais, tu connais ce sentiment quand tu prends une décision et tu sais que c'est la bonne parce que tu te sens plus léger.
Clairement. Ah, c'est fou.
Et tu ne sais pas encore où tu vas aller, mais tu sais que ça a du sens parce que tu le ressens dans ton corps.
Ah, donc tu sens une libération totale.
On est parti aux États-Unis. Moi, je m'étais dit, au retour, j'arrête, je vais faire une pause. Mais en fait, pendant ce voyage, et tu as compris, hein, je suis une espèce de boulimique d'action. On visitait plein de trucs, des villes, des parcs, mais aussi des villes. Et je voyais bien que dans les commerces, ça se passait pas comme en France, qu'il y avait des trucs un peu plus vitaux, que on pouvait payer avec son mobile. Enfin, je me disais, oh là là, c'est génial. Je prenais plein de photos, je prenais des notes. Et au retour, j'ai écrit un livre. Après, le magasin n'est pas mort. Et donc, je l'ai sorti, je l'ai publié. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu plein de gens qui me contactaient, des marques, des enseignes, qui étaient des CCI. Venez nous le dire, madame, qu'il n'est pas mort, ce magasin. Venez donc. Et donc, je me suis improvisée conférencière pendant un an. J'ai sillonné la France. Je suis allée parler dans toutes les conventions de toutes les entreprises. Puis, j'aimais bien ça, en fait. Hein. J'aime bien être sur scène. En fait.
Et puis, personne qui a fait Cagne, Hippocagne, écrire un livre, ça faisait sens aussi.
Ah bah oui, non, mais là c'est... En plus, j'en avais déjà écrit un avant. J'avais déjà écrit 2020, la fin du e-commerce, la mort du e-commerce. La fille qui fait que des trucs sur la mort. C'est la mort. Le magasin n'est pas mort. Mais et donc, oui, j'aime bien écrire. J'aime bien ça. Et du coup, je me suis improvisée conférencière et j'adorais aller à la rencontre des commerçants de proximité, à la rencontre des grandes enseignes. Et ça me permettait vraiment d'avoir des échanges avec les dirigeants à chaque fois et de comprendre quels étaient finalement les ressorts d'une entreprise qui se réinvente plus vite qu'une autre, qu'elle soit grande ou petite. Comment tu fais pour, surtout dans le monde dans lequel on est où tout va très vite, c'est qu'est-ce qui rend capable de s'adapter ou pas, d'être flexible ou pas, d'accepter le changement ou pas. Donc, je me faisais ma petite enquête en même temps que je faisais mes conférences et ça m'a permis de me dire, tiens, je, ça m'intéresse. Ça, c'est si je crée une entreprise pour un laboratoire sur la transformation, en fait, hein, et pour aller plus loin. Et donc, c'est ce que j'ai. Ça a été ma société suivante et que j'ai créée, non pas en France, mais aux États-Unis. En disant, je vais ouvrir un observatoire sur la transformation. Je me disais, les Américains, ils doivent forcément être plus avancés que nous. Ils sont plus entrepreneurs, ils sont plus dans le changement. Pas du tout, hein, c'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, pas plus dans le changement. Enfin, la capacité au changement n'est pas liée à ta nationalité. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on est parti aux États-Unis. On a passé 5 ans et là, on vient juste dans.
Ouais, vous venez juste de rentrer. Du coup, on en parlera après de ton nouveau projet. Dans les éléments, dans les événements très importants dans ta vie, enfin très importants en tout cas du regard des autres, c'est que tu as été chevalier de l'Ordre du Mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Comment tu as...
C'est important, quand même... toi.
Bah, je trouve que c'est une reconnaissance, tu vois. C'est amusant parce que cette semaine, j'interviewe aussi Pauline Dorgeval, qui est la fondatrice de Mille et Une Listes, qui, elle aussi... Ouais, avec plaisir. C'est ma première boss, Pauline, chez Mille et Une Listes. Et donc, qui est chevalière de la Légion d'honneur. Donc, vous êtes les deux seules personnes que j'interviewe à date qui ont ce statut.
Oui, tu verras que dans la liste des gens qui l'ont eu, il y a quand même aussi pas mal d'imposteurs. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment pas une reconnaissance.
Non, tu l'as pas vécu comme... Ouais, non, tu l'as pas vécu comme ça, non?
Non, pas du tout. Je l'ai vécu comme un moment de rassembler les gens que j'aime, de rendre mes parents fiers. Ça, c'était super important pour moi. J'ai une sorte de dette envers eux, tu vois. Enfin, mais j'ai vraiment toujours besoin de leur dire merci de quelconque manière. Donc ça, c'était un énorme merci à mes parents. Mais ouais, honnêtement, ça n'a pas fait de moi une personne plus fiable, plus à l'écoute, plus intelligente,
oui,
plus
aimante. Oui, heureusement.
Ouais. Mais donc, faut, voilà, c'est vrai que c'est marrant. Et puis, ce regard des autres me... je ne suis pas tellement...
T'es pas dans l'ego.
Alors, je n'ai pas d'ego, non. C'est dingue. Pas d'ego.
Bah, c'est bien.
Non. C'est bien. Donc, c'était pas... En revanche, ça reste un souvenir extraordinaire parce qu'à l'occasion de cette cérémonie, ma fille a prononcé un discours assez dingue. Ah, qui a été vu 1 million de fois sur LinkedIn.
Ah ouais,
on peut le retrouver, mais
ouais, elle a fait, on va essayer de le trouver.
5
ouais,
minutes, qui m'a fait rire et pleurer et qui apparemment a beaucoup plu aux gens.
Ah, c'est super. Tu savais qu'elle allait le faire?
Je savais qu'elle préparait quelque chose parce que ma grande amie de New York, Karine, m'avait dit « J'ai préparé avec ta fille, mais t'inquiète, ce qu'elle dit, c'est parce que je ne vais peut-être pas révéler des trucs épouvantables sur moi. » Karine, non, mais elle avait déjà fait un petit discours pour le mérite. C'était trop mignon, elle était petite. Et là, elle avait 15 ans, donc j'avais peur. On était un peu en conflit à l'époque. Mais donc voilà, je savais qu'elle allait dire un truc, mais aucune idée de ce que c'était.
Ah, ça, moi, je sais que j'étais là le jour où Pauline a reçu sa Légion d'honneur. Et en effet, c'est vraiment un très, très beau moment, ces moments-là. Et du coup, donc, ça, c'était une petite parenthèse. Dans les choses pour, entre guillemets, le grand qui t'ont fait connaître du grand public, tu as eu deux interventions sur M6.
Ouais.
Ça, comment tu l'as vécu?
Alors, quand tu dis deux, tu fais... Parce que la première fois,
alors, j'avais monté... Entreprendre, c'est grandir.
Voilà, ben ça, c'était vraiment... Tu sais, à l'issue, il y avait eu quelque chose qui s'appelait les assises de l'entrepreneuriat. Ça allait très, très loin comme ça, mais c'était il y a quelques années seulement, à une époque encore où les entrepreneurs en France n'étaient pas tellement des héros. Hein, et il y avait une vraie dichotomie entre les grandes entreprises, les pouvoirs publics et les entrepreneurs qui étaient un peu des parias. Et pour moi, ça a été ces assises qui ont été faites sous l'égide de Fleur Pellerin à l'époque, ça a été vraiment un passage à quelque chose d'autre. Et on devait pondre 40 mesures pour le président de la République pour dire comment est-ce qu'on peut se transformer plus vite et devenir une... On ne parlait pas de Startup Nation à l'époque, mais c'était ça. Et donc, je m'étais dit, il faut mettre en avant la diversité dans la création d'entreprises. Et donc, il faut mettre en avant des profils féminins et puis que les gens se disent... Pourquoi pas moi, encore une fois, hein, je peux y aller. Il faut faire une émission télé avec des programmes courts. Mais donc, j'ai passé quasiment 2 ans à chercher des sponsors que j'ai trouvé. C'est Arkea qui m'a financé et on a fait ce programme et on l'a fait pendant 3 ans. Donc, ça, c'était génial. Je ne sais pas si ça a été beaucoup vu, mais en tout cas, ça a été pour moi une première expérience absolument formidable. Tu sais, en fait, je me dis toujours quand on veut, on peut. En tout cas, moi, je me dis ça. Quand on peut, on doit le faire et je pouvais le faire. Et, Et quand tu entreprends, c'est hyper important de savoir trouver de l'argent. Être un bon vendeur, ça, c'est la clé, tu vois. Il ne s'agit pas juste… Les gens me disent souvent, j'ai pas d'idée. Non, mais on s'en verra. Ce qui compte, c'est est-ce que tu sais vendre? Est-ce que tu sais bien vendre? Montre-moi, parce que tu passes ta vie à ça. Donc, ouais, c'est cette qualité-là qui fait que j'arrive à avancer aussi et qu'il faut développer quand on veut entreprendre. Et donc, l'autre, c'était qui va être mon associé. C'était dingue. C'était formidable parce qu'il y a eu un engouement autour des entrepreneurs à ce moment-là. Première émission, pour une des premières fois où à une heure de grande écoute, on te montre des entrepreneurs, c'est sympa, il y a des questions, on investit, c'est top. Quoi. Et il va y avoir une saison 2 cette année. Moi, je redeviens entrepreneuse, donc je repasse de l'autre côté de la barrière. Peut-être que j'irai pitcher mon projet. Ouais. Enfin, qu'il ne faut pas connaître le jury. Mais en tout cas, ça reste une belle expérience parce que je crois que ça a contribué à propager l'esprit d'entreprendre en France. Voilà. Et ça a plutôt montré des indépendants que des entrepreneurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tech. C'était plutôt des business de petite taille et tu vois. Et très, très loin de finalement de ce dans quoi j'investis. Parce que moi, j'investis dans des entreprises qui ont ambition de devenir très grandes et peut-être d'entrer en bourse ou peut-être de se faire racheter. Là, ce n'est pas du tout l'idée.
Donc, c'était pas la cible.
Ouais. Dans ce genre de truc, c'est que tu es un peu un mécène ou que tu as vraiment des poches très, très profondes, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je préfère mettre mes investissements sur des projets dont je me dis il y a beaucoup de tech dedans. Donc, potentiellement, ça peut devenir…
Ouais, c'est scalable, ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
C'est l'équilibre. C'est se retourner, c'est se dire moi, je me suis accomplie professionnellement. Je suis restée une amie, une fille, une maman, une femme présente et attentionnée. J'ai continué à faire grandir ma vie intérieure parce que j'aime bien avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et puis, j'ai été utile autour de moi. Tu vois, j'ai donné du temps, j'ai fait des choses pour autrui. Donc, c'est ça la réussite. Et donc, c'est… si tu vois, tu me montres quelqu'un qui a une réussite professionnelle extraordinaire, mais qui a laissé en friche les autres trucs, je me dirais c'est dommage. Enfin, tant mieux, hein, c'est son chemin, hein, mais c'est pas mon histoire de réussite, ce que je projette. Donc c'est cette
voilà. Je vais rebondir. J'ai une question en fait. Je t'ai connue entre guillemets, enfin de longue date, mais je discutais avec toi avec Caroline qui travaille chez Rich que tu connais. Et donc quand tes personnes on échange, je leur
Rich,
laisse la possibilité.
Je suis actionnaire, oui.
Ouais, exactement. Et du coup, je leur propose de poser une question. Et donc la question de Caroline pour toi aujourd'hui, c'est quel entrepreneur tu as rencontré qui t'a le plus impressionné et pourquoi?
Ah bah d'accord.
Merci Caroline.
Ben merci Caroline. C'est pas très original. Hein. Enfin, c'était le premier, c'était Marc Simoncini, bien sûr. C'est lui qui a révélé cette envie d'entreprendre chez moi en fait. Et puis qui m'a toujours impressionné par sa rapidité, son intelligence, sa vision. Donc sur la partie création d'entreprise et réussite entrepreneuriale, bien sûr. Ça reste mon modèle.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Catherine dirait, la petite Catherine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Elle me dirait give me 5, well done. Non, mais elle dirait non, je pense qu'elle me raconterait une blague peut-être aussi.
Mm-hmm. Qui dit choix dit renoncement. C'est quoi tes renoncements à toi?
J'ai renoncé à avoir une famille nombreuse. Enfin, c'était pas non plus un déchirement, hein. Je pense que j'aurais été pas terrible comme mère de famille nombreuse, mais c'est vrai que quand je vois mes amis qui ont 2, 3, 4 enfants, je me dis, ça doit être tellement chouette. Ouais. Ça doit être tellement chouette de faire grandir une fratrie. Je sais pas si toi, t'as des frères et sœurs.
Moi, j'ai un frère, ouais.
Et c'est vrai que c'est quelque chose que je connais pas. J'ai pas de regrets, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui me déchire. J'aurais tellement aimé avoir d'autres enfants. Non, c'est pas vrai.
Ouais.
Mais je pense que j'ai renoncé à ça. C'était un choix, bien sûr.
Ouais, ça a été un choix du coup pendant toute.
Ouais. C'est-à-dire que sinon, je sais pas très vraiment. Hein, je savais que si j'étais enceinte d'un autre enfant, soit mon couple partait en éclats, soit mon boulot allait être bancal, soit je pouvais pas. Je me connais. Hein.
Et du coup, comment, enfin, parce que mine de rien, en effet, tu te connais très bien et de toute façon, je pense que ça fait forcément partie de la clé de tout ça. Comment t'as appris du coup à bien te connaître?
Comment je me connais bien, mais je suis assez, je me raconte pas d'histoire. Hein. Je suis assez lucide sur ce que je sais, ce que je sais pas, mes qualités. Qu'est-ce qui m'a permis de me connaître comme ça? Je pense que j'ai des amis simples et vrais. Je m'entoure de gens qui sont vrais, tu vois. Aussi bien, mais même mes parents, mon mari, ma fille, mes amis du cœur me disent ce qui déconne chez moi. Enfin, ils me disent, tu vois. Mais en même temps, un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui t'aime quand même. Et donc, j'ai la chance d'avoir des gens qui me disent vraiment des choses.
C'est ça, un sauf ami. Pour le théâtre, mais après
ouais, le théâtre, ils m'ont pas dit tout de suite, ça c'est pas cool, hein. Mais maintenant je demande aussi comment je pourrais m'améliorer, qu'est-ce qui va pas dans ce que je fais, qu'est-ce qui va pas dans la façon dont je te gère. Mais ma fille, elle m'aide énormément là-dessus, quoi. Elle me dit, à un moment j'ai fait passer le boulot avant la famille, elle me dit, tu dis toujours ce qui va pas mais tu me dis pas ce qui va, ou ce qui va c'est normal, et waouh, elle le dit sans filtre et ça m'aide énormément. Donc, je pense que c'est se connaître soi-même, c'est s'entourer de gens qui te disent, avec évidemment beaucoup d'amour. Hein. Parce que souvent, c'est des trucs qui grattent un peu, ça ne te fait pas plaisir.
C'est sûr. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Ma famille. Hein. Enfin, ma famille, ma fille, d'avoir gardé la relation avec mon mari, d'être présente à mes parents, à mes potes. Et d'arriver à peu près gérer tout ça en même temps que je continue à me réaliser dans mon travail. Et ma fille qui est là.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui ne connaît pas ton histoire et qui te dit, mais en fait, tu n'en es là que grâce à de la chance?
Eh bien, je dirais, t'as raison. Oui, il en faut de la chance. Bien sûr qu'il en faut. Après, tu la transformes ou pas. Mais forcément, il y a des gens qui se sont présentés sur ma route. Et ça, c'est certain. J'ai cette chance. Mais après, je me dis pas pourquoi je l'ai, c'est en vue de quoi. Et si je rencontre quelqu'un ou j'ai une opportunité, après, je remonte mes manches et je bosse pour la transformer. Et c'est clair qu'il faut de la chance. C'est une énorme part du chemin.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui?
Oh là là, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? Tu sais, chérie, il y a ma fille là qui est là. Je vais lui demander. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise? J'aurais aimé qu'on me dise. Ça, on me l'a dit. Non, mais qu'on me dise tout passe. Par contre, je fais pas de bruit, chérie, s'il te plaît. Non, mais parce que là, c'est en live, donc embarque tes machins. Les enfants. En fait, jamais. Non, je regrette.
Moi, j'en ai deux, mais c'est pareil.
Non, mais j'aurais bien aimé qu'on me dise la patience obtient tout. Ouais. Vraiment. Et parfois, et j'aurais aimé qu'on me dise ça se passe jamais comme tu l'as imaginé, mais accueille ce qui arrive. Accueille ce qui arrive, tu vois, le bon comme le mauvais, parce que c'est ton histoire. Voilà. Alors, c'est facile quand tu ne vis pas des choses épouvantables, et là, ça doit être moins facile d'accueillir, mais ouais, et ça va aller. Ouais. Enfin, on m'a dit. J'aurais aimé qu'on me dise. Je sais pas, que j'aurais aimé qu'on me dise, tu vois, plutôt des choses sur le mariage ou la relation plutôt que du boulot, parce que le boulot, finalement, il est ce que tu en fais. Hein, j'aurais aimé qu'on me dise que. L'arrivée d'un enfant, ce n'est pas l'apothéose de ton bonheur. C'est contrairement à ce que tu penses. C'est plutôt même une sacrée épreuve parce que ça casse tes équilibres. Et le mariage, c'est comme le bon vin, c'est de mieux en mieux. Tu vois. Donc, même si au début, c'est un peu amer, c'est un peu… Voilà, tiens bon. Tiens bon parce que ça va être de mieux en mieux.
C'est quoi tes prochains défis?
Je crée une entreprise.
Ouais.
C'est en fin j'espère avant la fin 2021 qui sortira en France en 2022. Je crois qu'il va y avoir énormément de chômeurs en France dans les mois et les années qui viennent, et que tous ces gens, à cause de la crise la crise économique liée à la crise sanitaire. Les entreprises réduisent leur masse salariale, mais drastiquement, un peu partout, surtout les grandes entreprises. Et que je crois que tous ces gens-là, enfin, il y aura de moins en moins de plan B pour redevenir salarié. Et en même temps, les jeunes, ils ont vraiment tellement envie. Ça fait rêver plus grand monde, hein, le CDI. Hein. Même si c'est une sécurité financière, d'un point de vue de sens, bon, je sais pas toi, mais bon. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité à accompagner les gens vers une nouvelle façon de travailler, et les entreprises et les individus. Donc, je vais créer une école.
Waouh, super.
Mais les salariés en indépendants rentables.
Ok.
Je vais faire une école pour les indépendants rentables.
D'accord, super. Bon, j'ai hâte d'en savoir plus plus tard.
Ouais, c'est non, mais ça, c'est génial. Ça va être dingue.
Ouais. Ouais, il y a une belle matière. Il y a une belle matière, en effet.
Mm-hmm. En fait, la création de valeur économique, elle se fait de plus en plus. Elle est de moins en moins générée par les entreprises. Elle va de plus en plus se déporter sur les individus qui vont devenir leur propre centre de profit, qui vont devenir leur générateur de chiffre d'affaires, et comment tu peux subvenir à tes besoins quand t'as pas la mère nourricière entreprise. Ça va être de plus en plus le cas. Donc, quelles sont les compétences qu'il faut que tu acquières? Comment est-ce que tu dois être accompagné? Comment faire en sorte que ce statut soit de moins en moins précaire? Enfin, je suis vraiment en train de réfléchir à cette mutation profonde du travail, à la fois des individus, mais aussi des entreprises qui sont en train de s'ouvrir. Une entreprise, c'est plus une boîte fermée, hiérarchique, avec du contrôle et avec un truc monolithique et des silos. Une entreprise, c'est un hub de compétences. C'est un écosystème. C'est quelque chose, et il y a plein de choses qui vont pousser dans cette direction, mais moi, je veux contribuer parce que je crois que c'est la direction à accompagner.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Merci, c'est un peu la cérémonie des Oscars. Et je remercie le Seigneur, je remercie mes parents, je remercie mon mari, ma fille, mes amis, tous mes potes. Voilà, non, mais merci la vie, quoi.
Pour moi, c'est très important, tu vois, souvent je me dis, tout le parcours, c'est lié à des, enfin, comme tu disais, hein, la vie est faite de belles rencontres, et c'est ce qui nous permet d'avancer sur notre chemin, et clairement, je me dis, c'est un moment dans ce podcast de dire merci à des personnes, tu vois. J'ai une de mes invitées, Valérie Pastre, qui est comédienne, et elle a remercié son scénariste, enfin, ses deux co-scénaristes, et elle me disait, je leur ai jamais dit merci dans la vraie vie, et donc elle a profité du podcast pour le faire, Et du coup, voilà, c'est le moment aussi de dire merci à des personnes à qui on n'a pas forcément l'habitude de le faire parce que la
gratitude. Moi, je suis assez merci. J'aime beaucoup remercier. C'est un des trucs que je préfère faire. J'aime beaucoup dire merci. Et parce qu'en même temps, c'est vrai que cette gratitude-là, elle te fait du bien, en réalité.
Bien sûr.
Ça remplit. Quoi. Donc, pas perdre une occasion de dire merci. Et j'essaye de ne pas perdre une occasion de dire aux gens que j'aime, que je les aime. Ouais. C'est pénible, d'ailleurs, ils n'en peuvent plus. Mais parce que finalement c'est ça qui nous ancre ici et maintenant, c'est ce lien, c'est la relation, et si on est fort de ça, on pourra un, traverser plus facilement les épreuves, et puis deux, trouver du sens, enfin, à la fois une direction et une signification. Et donc je te dis merci, Charlotte.
Merci à toi, Catherine. À très vite.
À bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez sur le blog le lien du discours de sa fille à l'occasion de sa remise à la Légion d'honneur. Je vous dis à demain dans la newsletter hebdomadaire et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, avec une autre femme exceptionnelle que je rêvais d'interviewer depuis très longtemps également. Au revoir.